OK, on va commencer notre 25e leçon. Il nous en reste une après celle-là sur la sanctification. Excusez. Ce soir, c'est discerner les besoins des temps. On lit par exemple dans 1 Chronique, au chapitre 12, au verset 32. Et des fils d'Issacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire de leur chef 200. Et tous leurs frères sous leurs ordres. Alors, on se souvient que c'est après la mort de Saül, où le peuple d'Israël avait le choix de continuer avec les descendants de Saül, comme leur futur roi, ou de choisir David. Et les Écritures nous disent ici, le Saint-Esprit nous montre que les fils d'Issacar savaient discerner les temps. Quand tu sais discerner les temps, c'est que tu vois les problèmes, tu vois les opportunités et tu choisis la bonne solution. Et c'est mettre le verset en rapport avec notre temps à nous aujourd'hui. Nous aussi, on vit un temps difficile où on a des décisions importantes à prendre. Et il y a certaines choses qu'il faut prendre conscience si on veut prendre des décisions éclairées, sages. Alors, bien entendu, tous les versets des Écritures nous donnent des enseignements, et celui-ci en particulier, c'est important pour nous de comprendre et de discerner les besoins des temps dans lesquels nous vivons, parce que c'est une période particulière de l'histoire. On a un autre exemple de ça dans le livre d'Esther. Alors, Esther, chapitre 1, les versets 12 et 13. « Et la reine Vashti refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques, et le roi se courroussa fort, et sa fureur s'embrasa en lui. Et le roi dit aux sages, qui connaissaient les temps, car chaque affaire du roi se traitait ainsi en présence de tous ceux qui connaissaient les décrets et le droit. » Alors, on a un autre exemple que les gens à qui le roi confiait les décisions étaient des gens qui connaissaient les temps. Donc, tu connais la mentalité, tu connais les difficultés, tu connais les problèmes et tu ajustes ton comportement en fonction des besoins des temps. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a blâmé les Juifs parce qu'ils ne reconnaissaient pas les signes des temps. On lit par exemple dans Luc 19, versets 43 et 44, « Car des jours viendront sur toi où tes ennemis te scindront d'une tranchée, et t'environneront, et te serreront de toutes parts, et te renverseront, toi et tes enfants, au-dedans de toi. Et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Alors, pour reconnaître les temps qui se passent autour de nous, les Juifs avaient le Messie devant eux, puis ils étaient complètement aveugles à ça. On a aussi dans Matthieu 16, versets 1 à 3, « Et les pharisiens et les sadducéens s'étant approchés, lui demandèrent, pour le tenter, de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais répondant, il leur dit, « Quand le soir est venu, vous dites, beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, aujourd'hui, de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'apparence du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. » Alors, bien entendu, on se doit, nous, de comprendre les signes et les besoins qui sont propres à notre époque. Ce qui se passe dans l'Église, en général, pas juste dans l'Église de Nantes, dans toutes les églises du monde, il se passe plein de choses, dont on vient d'en nommer quelques-uns, de la persécution. Alors, plus on connaît les signes des temps, plus on est en mesure d'agir et de demander des choses à Dieu qui correspondent aux besoins. Alors, bien entendu, ce qui se passe dans l'Église, mais aussi ce qui se passe dans le monde. Si on observe un petit peu, on a les nouvelles de la télévision, ce qui se passe dans différents pays, les musulmans, mais ce n'est pas le seul problème, les musulmans. Il y a plein d'autres problèmes à plein de niveaux, un peu partout. Et plus on va les connaître, les problèmes, plus on va intercéder avec intelligence. Souvent, on est juste porté à regarder ça un petit peu comme d'une scène extérieure en spectateur. Mais nous, comme chrétiens, on a un pouvoir, celui que d'intercéder auprès de Dieu pour régler des problèmes. Mais si on ne le fait pas, ben là, c'est parce qu'on ne sait pas observer les signes des temps. Savoir observer les signes des temps, ce n'est pas juste de voir qu'il y a des problèmes. c'est de voir qu'il y a des problèmes, mais aussi de savoir comment les régler. Et il n'y a qu'une personne qui peut les régler, c'est le Seigneur. Alors, si tous les enfants de Dieu étaient à genoux et intercéderaient correctement, je pense qu'il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient réglés sur la terre. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8, nous dit « Et si la trompette donne un son indistinct, qui s'apprêtera pour la guerre? » Autrement dit, si on n'avertit pas avec les bons moyens, comme à l'époque, on demandait aux gens de venir à la guerre en sonnant de la trompette, et comme il dit, si le son de la trompette n'a pas un son qui est clair, bien entendu, la guerre, les gens ne viendront pas. Alors, on a cinq choses à considérer, cinq choses requises, qui sont particulières à notre époque et qui sont des choses requises de la part des églises locales et aussi des ministres de l'Évangile. Alors, quelque part, c'est les églises locales ont une responsabilité, les ministres de l'Évangile en ont aussi. Alors, la première chose qu'on se doit de prendre conscience dans les signes des temps, c'est d'avoir un maintien ferme de l'autorité divine de la Bible. Et ça, c'est une chose qui s'en va en dégringolade un petit peu partout. Même dans les milieux chrétiens, parfois on met trop l'accent sur l'amusement, sur le côté spectaculaire, et on met la parole, on la tasse un peu, sans la négliger complètement 100%. Mais on voit qu'il y a comme un déplacement depuis quelques années. Et ça, c'est une erreur extrêmement grave. Alors, si on sait observer les signes des temps, il faut savoir plus que jamais qu'il faut s'attacher au sens d'Écriture et s'attacher très solidement. Parce qu'il y a une multitude d'ennemis de Dieu, une multitude de faux enseignements qui circulent. Et si on ne fait pas attention, il ne faut pas penser qu'on nous, on ne pourra pas glisser dans l'erreur. Alors, l'attachement au sens d'Écriture, je pense, moi, que les églises réformées baptistes que je connais, dans les cultes, en général, l'accent est mis sur la parole de Dieu, et ça, c'est une de nos forces, et je dirais qu'il faut la développer encore davantage, l'aimer encore davantage. Alors, on vit à une époque où il y a beaucoup d'incrédulité, beaucoup de scepticisme et beaucoup d'infidélité. Alors, dans tous les médias, sans exception, sans être obligé de toutes les nommer, il y a une armée d'incroyants, d'intellectuels qui font la guerre à ce qui est le fondement du christianisme. Et qu'est-ce qu'ils veulent détruire? L'autorité des Écritures. Il y a toutes sortes, on pourrait rentrer dans les détails là-dedans, on aurait beaucoup à dire. Les arguments qu'ils vont utiliser, c'est souvent des arguments tirés de la raison et des arguments tirés de la science, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, de la généalogie, de l'anthropologie, de certaines découvertes récentes, de la pensée libertaire aussi, les gens qui disent « Dieu est mort, maintenant on a le droit de faire ce qu'on veut ». Et ça, là, ça nous, c'est comme s'il y avait une immense vague qui arrive de tout partout, par tous les moyens. C'est quand on va, par exemple, partager l'Évangile avec des gens qu'on se rend compte jusqu'à quel point ces choses-là sont vraiment rentrées dans les mentalités. Ils ont entendu ça à la radio, ils ont entendu ça au cinéma, ils ont entendu ça dans les revues, ils ont entendu ça partout. Et souvent, si on pense, ça n'a pas d'influence, ça a une énorme influence. Alors, toutes ces choses-là, bien souvent, ça a un but, celui de discréditer la vérité de la Bible, de discréditer l'authenticité des miracles, ce qu'on appelle les libéraux là, en théologie. Qu'on appelle les libéraux. Les libéraux, ce n'est pas un parti politique. C'est les libéraux en théologie, c'est ceux qui mettent en doute à peu près toutes les vérités de la Bible. S'ils voient un miracle, ben non, ce n'est pas un miracle. Ils vont chercher à expliquer ça d'une façon avec leur raison. Ils vont nier la divinité de Jésus-Christ, même dans les milieux chrétiens. Ils vont nier la Trinité. Ils vont nier la personne divine du Saint-Esprit. Ils vont nier l'enfer. Je pourrais vous nommer des théologiens, ça ne donne rien de le donner en public. Mais des théologiens qui sont très haut coté en Angleterre, qui commencent à nier publiquement l'existence de l'enfer. Alors ces choses-là, il ne faut pas penser que ça n'a pas d'influence. Ça commence tranquillement, ça rentre dans les églises, puis tranquillement, ça fait son chemin. Alors s'attacher aux Écritures, l'importance... la prière, la naissance virginale de Jésus, c'est aussi des grands théologiens anglais qui ont fait les gorges chaudes avec cette doctrine-là. Pourtant, c'est une doctrine fondamentale. Si Jésus n'est pas né d'une vierge, Et si le Jésus n'est pas né par le Saint-Esprit et l'union d'une ovule féminin, bien, quelque part, il n'a pas de salut. Alors, il ne faut pas penser que c'est des petites choses niaiseuses puis des petites doctrines insignifiantes. Et ils ont attaqué comme ça la plupart des doctrines. On pourrait toutes les nommer, là. Il n'y a pas une doctrine dans le christianisme qui n'a pas été attaquée par les libéraux. Et le but fondamental, c'est de prendre les Écritures et d'enlever la foi des chrétiens envers les Écritures. Le Seigneur nous dit dans Luc 18, c'est une question sondante. Il dit, « Je vous dis que bientôt il les vengera. Au reste, quand le Fils de l'homme viendra. » Et on pense que, beaucoup de personnes pensent qu'on est sur le bord, que le Seigneur va revenir. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça veut dire qu'il va y avoir énormément d'apostasie, d'abandon de la foi. Voyez-vous, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 12 et 13, ça dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ, Jésus, seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs progresseront de pis en pis, égarants et égarés. » De pis en pis, ça veut dire que ça s'emmiutera pas, là, ça va s'empirer. Et ils vont eux-mêmes être égarés par toutes sortes de mouvements, d'idées qui circulent. Et en permettant que ces idées-là circulent, eux aussi vont devenir des personnes qui vont égarer les autres. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par des avertissements la pureté de vos pensées, pour vous faire souvenir des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes, et de notre commandement à nous, les envoyés, commandement du Seigneur et Sauveur, sachant avant tout qu'il viendra vers la fin des jours des moqueurs, marchant selon leurs propres désirs et disant, « Où est la promesse de son arrivée? Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état, dès le commencement de la création. » Alors, quand ça nous dit qu'il viendra vers la fin des jours, vers la fin des temps, des moqueurs, alors on va arriver à une époque où toutes ces choses-là vont augmenter, et si on n'est pas attaché aux Écritures, on va glisser, ça c'est certain. Alors, il y a trois choses, malgré toutes les attaques des incroyants, qui sont des choses qui sont inexplicables par ceux qui veulent détruire la foi sous toutes ses formes. La première, c'est la personne de Jésus-Christ elle-même. Les païens ou les incroyants qui vont chercher à expliquer que la présence de Jésus-Christ sur la terre, ce qu'il a fait, l'influence qu'il a eue, sont incapables de l'expliquer correctement. C'est toujours des affaires qui ne tiennent pas debout. Alors, qui était-il? D'où venait-il? D'où venait sa puissance? Comment expliquer sa résurrection? Et bien d'autres points encore. Ils sont pognés avec un problème majeur, ils ne sont pas capables d'expliquer ça. Le deuxième fait, c'est que la Bible elle-même, comment ils peuvent expliquer l'influence immense que la Bible a eue sur le développement de l'histoire dans le monde, ils sont pas capables d'expliquer ça. Parce qu'ils disent, bon, c'est normalement, je pense, c'est 40 auteurs sur 1600 ans, et les doctrines sont toutes harmonieuses entre eux autres. Alors, si tu dis que c'est des choses d'hommes qui ont été écrites par des hommes, puis que ça n'a pas de... Regarde l'harmonie, ils ne sont pas capables d'expliquer l'harmonie des Écritures et tout ce qui... La Bible explique Dieu, explique la compréhension des hommes, la solennité. Il y a une solennité dans la pensée biblique qui est grande. La grandeur des doctrines, la sagesse, la profondeur, la perfection et la pureté de sa moralité. Autrement dit, ils sont pognés avec un problème majeur. Ils ne sont pas capables d'expliquer Jésus-Christ à personne. Ils ne sont pas capables d'expliquer non plus les Écritures. Et la troisième chose... Ils ne sont pas capables d'expliquer comment ça se fait que le christianisme a eu autant d'effets sur le développement de l'histoire humaine à travers les siècles. Alors, la deuxième chose qu'il nous faut tenir compte, donc l'attachement aux Écritures, la première. La deuxième, c'est d'avoir des doctrines bibliques qui sont bien définies et défendues. Alors, l'Église professante de nos jours a subi d'énormes dommages venant de deux sources. Le laxisme et le flou théologique faisant en sorte que chacun croit ce qui lui semble bon, Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'attaque de l'intérieur et aussi le scepticisme systématique qui est une attaque de l'extérieur. Alors, on a une attaque de l'intérieur de l'Église et on a une attaque de l'extérieur de l'Église. Alors, les croyants de notre époque doivent impérativement sortir de leur léthargie, de leur paresse et de leur négligence et implorer le Seigneur de leur donner le goût de l'étude de la doctrine. Ça, c'est vraiment un grand besoin chez les chrétiens modernes. Dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 14, ça dit « Afin que nous ne soyons plus de petits-enfants, flottant et portant ça et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur adresse dans l'art de l'égarement. » Autrement dit, si on s'égare, ce n'est pas la faute de Dieu. Il nous a tout donné et tout est dans les Écritures et tout est dans la compréhension correcte des doctrines. Si on n'a pas une compréhension correcte et bien définie, le mot clé là-dedans, c'est des doctrines bibliques bien définies. Alors, les croyants de notre époque, bien sûr, se doivent de changer leur attitude face à ça. Dans Tite 1, verset 9, ça nous met face à notre responsabilité, c'est-à-dire retenant fidèlement la parole selon la doctrine, afin qu'ils soient capables et d'exhorter par l'enseignement saint et de reprendre les contradisants. On serait censé d'être capable de faire ça. Mais je vais vous dire, si on prenait des chrétiens moyens dans les églises moyennes du Québec, là, on lui demanderait de réfuter les contradisants avec les Écritures, on verrait que c'est faible à bien des égards. Je pense qu'on a avantage à étudier et à connaître davantage notre confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689. Voyez-vous, je vais vous lire ce que ça dit dans la préface de l'édition qui est publiée par le comité d'entraide réformée baptiste en 1994. Ils parlent de trois recommandations concernant la confession de foi. La première, il dit, il parle de la confession de foi. Il dit, son utilité pour l'Église d'aujourd'hui est multiple. Premièrement, historiquement d'abord, elle témoigne du fait que la doctrine de la grâce n'est pas l'apanage des seules Églises réformées, mais qu'il y a depuis longtemps des Églises doctrinalement fortes, très proches d'elles, bien que distinctes sur les questions du baptême, de l'organisation de l'Église ou du rapport de celle-ci avec l'État. Quand on dit les Églises réformées, en général, c'est les doctrines qui professent les doctrines de la grâce ou le calvinisme. Ça, c'est les doctrines. Mais comme il dit, il n'y a pas juste les réformés qui croient ça, il y a les baptistes aussi. Et il y a d'autres qui ne portent pas nécessairement le nom de réformés baptistes, mais qui croient ces doctrines-là aussi. Donc, historiquement, doctrinalement, ensuite, sans être infaillible, qualificatif qui ne sied qu'à la parole inspirée de Dieu, cette confession est néanmoins un excellent résumé des principaux articles de doctrine qui devraient être gravés dans le cœur et dans l'intelligence de tout croyant. Elle lui permettra de réfléchir sa foi bibliquement afin de tenir ferme face à l'hostilité du monde et dans la controverse. Voyez-vous, doctrinalement, on sait qu'une confession de foi, ce n'est pas infaillible, mais cependant, c'est un bon résumé de ce que beaucoup de théologiens ont réfléchi avant nous sur l'ensemble des doctrines des Écritures. Et plus on va connaître notre confession de foi, plus on va être résistant face aux attaques de l'ennemi. Il dit, si elle est éditée aujourd'hui pour la première fois en français, c'est pour attester qu'au sein du protestantisme gangréné, tant par le modernisme que par le sentimentalisme évangélique, il existe encore des églises dites baptistes. Toutes ne portent pas forcément ce vocable dans leur titre, qui proclame avec foi les doctrines exposées dans ces pages. Ces doctrines donnent le fondement pour comprendre la parole de Dieu sans faire violence à un aspect ou l'autre de son message. L'instruction de cette confession n'est donc pas à considérer comme une somme de simples abstractions théologiques, mais comme l'énoncé organisé de l'Évangile par lequel Dieu libère efficacement le pécheur au moyen du sacrifice parfait accompli par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, à Golgotha. Nous ne pouvons que recommander au lecteur l'examen sérieux et réfléchi de cette confession de foi à la lumière de l'Écriture sainte. On a déjà parlé, on va le faire éventuellement, on va développer ça, mais c'est important. Plus on va connaître nos doctrines, plus on va être capable de résister aux vagues énormes d'hérésies qui sont déjà en place, mais qui vont aller en s'amplifiant. Troisième chose qu'il recommande, c'est un sens plus aiguisé et convaincu du caractère non scripturaire du catholicisme romain. Lui, il parle de ça parce qu'il écrit son affaire au fin du 19e, donc fin des années 1800, et il voyait déjà que l'anglicanisme, qui était un des fondements du protestantisme en Angleterre, avait déjà commencé à dériver en adoptant des doctrines catholiques. Et il dit que c'est important pour les chrétiens modernes de connaître toutes les faussetés, les faux enseignements qu'il y a dans l'Église catholique. On est surpris de voir actuellement le mouvement d'écuménisme qui est en train de rassembler à peu près toutes les églises qu'on dit protestantes du monde et de les retourner sous l'enseignement du catholicisme romain. Ça m'a fait penser à deux petits... On pourrait développer ça beaucoup, là, mais on n'a pas le temps de le faire. Mais je vous rappelle deux petits livres que j'avais lus au début de ma vie chrétienne qui le font d'une façon systématique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. « Que dit le Christ? » C'est un petit livre qui prend les principales doctrines, les principales faussetés du catholicisme et qui les dénonce avec les Écritures. Et il y en a un autre ici qui est encore, qui s'appelle « Le voile recousu ». C'est excellent. Je revoyais ça cet après-midi. Alors lui, son idée, il disait que déjà à son époque, ça avait commencé, le retour vers le catholicisme. Il disait que ça va se faire lentement. C'est vrai que ça s'est fait lentement. Parce qu'on est rendu 100 ans après là, que la plupart des églises qu'on dit évangéliques sont en train de retourner sous la jupe de Rome. On ne connaîtra jamais assez les erreurs doctrinales des catholiques si on veut demeurer dans la vérité. Parce que nous aussi, on va... S'il y a tant d'églises qui se sont faites aspirer par l'Église catholique, c'est parce qu'à quelque part, on ne connaît plus leur doctrine. On ne connaît plus leurs erreurs doctrinales. D'une importance capitale de les connaître. Il existe plein d'outils au cours des siècles passés, au cours des années passées. Il y a eu des dizaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Si jamais vous en voulez, j'en ai en français, j'en ai en anglais. C'est important de les connaître. Parce que plus vous allez les connaître, plus vous allez être capable de vous défendre advenant qu'il y ait beaucoup d'erreurs qui veulent nous envahir. La quatrième besoin qu'il voit dans le temps moderne, c'est celui d'un plus haut degré de sanctification personnelle. La raison pour laquelle j'ai entrepris cette série d'études-là, c'est justement parce que je sens qu'il y a un besoin dans l'Église. Moi, y inclus, là, je m'exclus pas, là. On a tous un plus grand besoin de se sanctifier personnellement. Moi, je trouve que J.C. Ryle, c'est de valeur que ce livre-là n'a pas été écrit en français, parce que je vous donne un résumé, mais je suis loin de vous donner tout ce qu'il dit. C'est une perle, je vous le dis, c'est vraiment un chef-d'œuvre sur la sanctification. Moi, en tout cas, s'il existe un meilleur livre sur la sanctification, donnez-moi-le, parce que moi, je n'en connais pas de meilleur. Alors, si on a besoin de connaître ça. J'ai donné, au cours des 25 dernières leçons, un résumé bien pauvre de ce qu'il donne. Parce que si on le donnerait au complet de ce qu'il dit, on passerait un an sur la doctrine et plus. Alors, lui, il dit, qui est l'auteur du livre « Holiness, Its Nature, Hindrances, Difficulties and Roots », il dit qu'il a vécu au 19e siècle et il affirme avec une grande conviction qu'à son avis, depuis la Réforme, il n'y a pas eu de temps similaire à aujourd'hui où la profession de religion chrétienne n'est pas accompagnée d'une véritable pratique des enseignements bibliques. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui professent être chrétiens, mais qui ne vivent pas conséquemment en rapport avec ce qu'ils disent croire. Et lui, il disait ça, que c'était déjà grave à son époque en 1880. S'il verrait 2017, je pense que là, il tomberait littéralement sur le dos. Alors, et il dit aussi que depuis la Réforme, il n'a jamais vu une époque où on parle autant de Dieu, mais sans une marche authentique avec Dieu. Et aussi, il n'a jamais vu une époque, depuis la Réforme aussi grande que la nôtre aujourd'hui, une écoute où il y a beaucoup d'écoute de la parole de Dieu, mais sans l'obéissance qui doit l'accompagner. Parce que la Bible nous dit qu'on est des auditeurs. Si on fait juste écouter puis qu'on n'ajuste pas notre comportement en conséquence, la Bible nous dit dans Jacques que notre foi est morte. Alors, quelque part, lui, il a dit qu'il avait jamais vu. Quand j'ai lu la phrase, genre, j'ai dit, ouais, t'as vécu en 1880. Si tu vivrais en 2017, tu verrais que ça ne s'est pas amélioré du tout. Alors, c'est encore, ça a été vrai au 20e, c'est encore plus vrai au 21e, puis je pense plus on va s'approcher de la fin, plus ça va être vrai. Alors, aujourd'hui, il faisait la remarque qu'il y avait beaucoup de formalisme qui avait remplacé la véritable foi authentique et réelle. Le formalisme, ça veut dire qu'on fait juste aller au culte, puis dans la semaine, on vit n'importe comment. Fait que c'est ça du formalisme. Ah, ben, mon rapport avec Dieu est bon, je vais au culte. Tu sais, c'est ça dépend comment tu vis dans la semaine. Alors, Jésus, dans Matthieu 5, au verset 20, il dit, « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors, il termine en disant, « Où est le renoncement à soi-même? Où est la séparation des choses du monde? Où est le rachat de notre temps? Où est l'engagement constant au service des affaires du maître? Où est la courtoisie? Où est l'humilité? Où est la patience? Où sont les autres vertus chrétiennes chez les chrétiens contemporains? » Et la dernière, il dit que ça devrait être la persévérante recherche de faire progresser nos âmes. Quand on regarde les cinq choses, alors on vit une époque où l'expression extérieure de la foi chrétienne publique est manifeste si on en juge par le nombre des églises locales de toute dénomination. Si vous allez dans des églises américaines, des fois, vous arrivez à une croisée de chemin, il y a une église sur chaque coin. Il y a plein d'églises au Canada, il y a plein d'églises aux États-Unis, il y a plein d'églises en Amérique du Nord, il y a plein d'églises en Europe. Alors, l'expression publique de la foi est comme une époque où on est hyper gâté. On ne peut que remercier le Seigneur pour ce fait-là, car nous savons que des hommes peuvent être sauvés par ce moyen-là. Dans Philippiens 1, versets 15 à 18, ça dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et dispute, et d'autres le font avec bienveillance. Les uns annoncent Christ dans un esprit de dispute et non pas purement, croyant ajouter de l'affliction à mes liens. Mais les autres le font par affection, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Et là, Paul y termine en disant « Comme importe, de quelque manière que ce soit, par un zèle apparent ou avec sincérité, Christ est annoncé. C'est ce dont je me réjouis et je me réjouirai encore. » Autrement dit, il regarde le côté positif. Il y a plein d'églises, il y a plein l'Évangile est annoncé, surtout en Amérique du Nord, en Europe. On n'a pas trop de troubles, on n'a pas trop de problèmes. Mais on a vu ce soir qu'il y a des pays où il y en a beaucoup. Alors, quoi qu'on se réjouisse d'une importante expression de la foi chrétienne, par le grand nombre des églises locales des différentes dénominations, on ne peut que déplorer qu'une telle expression publique n'est pas toujours accompagnée par une expression privée de la foi qui est authentique. Cela risque de causer du tort à la cause de Christ et éventuellement à avoir des effets pervers. Alors, l'expression privée de la foi chrétienne est d'une importance vitale. Nous devons impérativement y accorder beaucoup plus d'importance et d'attention par plusieurs moyens. La première, une vie de prière plus fervente, plus régulière et plus intense. Il y a, comme il disait, des prières qui ne coûtent rien, mais il y en a qui coûtent des larmes et des pleurs. Quand le Seigneur dit prier par des prières et des supplications, quand on supplie, là, c'est pas la même chose que quand on fait juste mentionner. Alors, ne négligeons pas le trône de la grâce et le travail de genoux. Les Anglais, j'aime beaucoup cette expression anglophone-là, knee work, ils disent ce qui manque souvent dans l'œuvre du Seigneur, c'est du knee work. Knee, ça veut dire genou. Work, ça veut dire du travail de genoux. Si on avait plus de travail de genoux, à la fois pour la consécration dans nos vies et pour l'évangélisation, je pense qu'il y aurait davantage. Et aussi une meilleure utilisation de la Bible. On en a toutes des copies. souvent en grand nombre dans nos foyers. Mais l'ignorance des Écritures est la racine de tous les maux spirituels. Alors on se doit de nous acquitter avec régularité des devoirs que nous avons envers les Écritures. La lecture quotidienne, ton meilleur temps au meilleur moment, puis du temps, mazan. L'étude diligente, pour beaucoup de monde qui étudie les Écritures. La mémorisation systématique des Écritures. Ça, c'est pas des choses. Si ça te tente, fallait. Si ça te tente pas, fallait pas. Il y a plein de versets qui nous commandent toutes ces choses-là. Étudier, lire, mémoriser, l'écouter attentivement. Quand on parle du dimanche, des fois, je vous disais, demander au Seigneur de nous donner l'onction du Saint-Esprit à la fois aux prédicateurs et aux auditeurs. Il faut se préparer à l'écoute attentive et réceptive de la parole, dans le but qu'elle nous transforme. Parce que le danger, c'est toujours d'écouter, ça passe par un arrive, ça sort par l'autre. Ça, c'est très, très dangereux. Et aussi, la demande de l'onction du Saint-Esprit, bien entendu, et la méditation. On dit que la méditation de la parole de Dieu est un or qui se perd. Pourtant, ces cinq choses-là qu'on se, devrait faire avec les Écritures, on se devrait de les faire quotidiennement. Et on ne le fait pas toujours, malheureusement. Ce qui fait notre faiblesse. Vois-tu, dans Matthieu 22, au verset 29, le Seigneur Jésus dit, « Mais Jésus, répondant, leur dit, « Vous vous égarez, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » La cause de leur égarement, leur dit, l'ignorance des Écritures. Alors, les Écritures, c'est pas juste un livre, c'est la parole de Dieu, mais on le dit avec notre bouche, mais je suis pas sûr que notre comportement s'ajuste avec ce qu'on dit. Et on a besoin, bien entendu aussi, d'une communion qui est plus constante et plus intime avec Christ. Consacrons notre meilleur temps de la journée pour cultiver une méditation et une conversation avec le Seigneur. Dans Matthieu 6, versets 5 et 6, ça dit « Et lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les congrégations et au coin des rues, afin qu'ils soient vus des hommes. Amen, je vous dis qu'ils reçoivent leur salaire. Mais toi, lorsque tu pries, entre dans ton cabinet et, ayant fermé la porte, prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra en public. » Trois applications. Comprenez-vous les besoins des temps et leur relation avec vous personnellement? Nous vivons à une époque de grands dangers spirituels. Jamais il n'y a eu plus de pièges, plus d'obstacles sur notre voyage vers le ciel. Ils sont tous astucieux, ces pièges-là, imprévisible et plein d'ingéniosité. Alors, connaissons-nous les besoins des temps et leur relation avec nous personnellement? Deuxièmement, comprenez-vous les devoirs que les temps vous imposent par rapport aux âmes des autres? Luc 10, verset 2, il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le maître de la moisson, le seigneur de la moisson, de pousser des ouvriers, j'aime beaucoup la version Lausanne, de pousser des ouvriers dans sa moisson. » Supplier. Des fois, on prie pour des nouveaux ouvriers. Mais prier puis supplier, c'est pas la même chose. On le fait pas souvent, supplier. Seigneur, je t'en supplie, on a besoin d'ouvriers au Québec. On a besoin d'ouvriers dans le monde. On a besoin de missionnaires pour envoyer, pour faire connaître ton évangile dans le monde. Supplier, on le fait pas souvent, malheureusement. Dans Jean 4, versets 35 et 36, il dit « Ne dites-vous pas encore 4 mois et la moisson vient. Voyez, vous dis-je, levez vos yeux et regardez les campagnes. Elles sont déjà blanches pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que, et celui qui sème et qui, celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Voyez-vous, le Seigneur nous dit que la moisson est blanche, qu'elle est prête pour la moisson, mais quelque part, ça prend des ouvriers. Alors, on a besoin de supplier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Alors, dans Proverbes, chapitre 11, verset 25, ça dit « L'âme qui bénit s'engraissera, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Troisième et dernière application. Comprenez-vous que nous vivons à une époque périlleuse, remplie de détresse, et que l'Église se trouve dans une position critique. Extérieurement attaquée de toutes parts par les infidèles et les libéraux théologiques, et affaiblie intérieurement par des traîtres, des faux amis, des faux enseignants et des ministres du culte qui sont timides. Alors soyons plus que jamais attachés à la Bible et à notre confession de foi. Prions avec plus de vigueur, sanctifions-nous davantage, évangélisons sans cesse, aimons-nous sincèrement et implorons les grâces du Seigneur. Que le Seigneur nous donne de discerner les besoins des temps et d'agir en conséquence. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.
Amen.